Dans l'actualité des idées aujourd'hui, de l'affaire Weinstein à l'entrée au Panthéon de Simone Veil, un regard sur la condition féminine après un an d'âpres débats et de prises de conscience avec notre invitée, l'écrivaine Annie Ernaux, auteure de La Place, de Passion Simple, de Se perdre, de la vie extérieure ou encore de L'événement, à la tête d'une œuvre littéraire dont la double dimension universelle et autobiographique est plus qu'un principe d'écriture, l'encre dont sont faits ses livres. Tour à tour, fille d'eux, étudiante, épouse, mère et amante, dans les années, elle est femme et écrivain. Dans Mémoire de fille, paru chez Gallimard dernièrement, elle est la fille de 1958, cette étrangère dont elle a la mémoire, et elle pose, une fois encore, un souvenir supplémentaire à cet édifice littéraire. Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'écriture comme une recherche, celle d'une expérience intime de la condition féminine. Cette année, de la parole confisquée à la parole libérée, un mouvement de femmes qui ont pris la parole pour dénoncer le harcèlement dont elles ont été victimes, des femmes qui ont choisi collectivement, elles, de refaire la route. Ce parcours, vous l'avez fait à votre manière, par l'écriture. Elles ont choisi de le faire en prenant la parole ensemble, à travers ou derrière des hashtags. Est-ce que cette séquence qu'on a vécue cette année, il y aura, d'après vous, un avant et un après ?
Ah oui, indéniablement. Moi, j'ai vécu ce moment de l'année dernière comme une révolution que je n'espérais plus, je dois le dire, parce que après donc les années 70 et qui se sont prolongées dans les années 80 avec un féminisme et qui luttait encore, il y a eu une sorte de dissolution complète. On en était arrivé à entendre des femmes dire « je ne suis pas féministe, mais ». Voilà, c'était vraiment des propos qu'on entendait comme féministe, c'était vraiment un gros mot, et puis il ne se passait plus rien. Bon, cela dit, je dis « il ne se passait plus rien » au sens de mouvement, parce que il y a évidemment des écrits, il y a Judith Butler, c'est évident que la recherche, le féminisme n'est pas du tout mort, hein, n'était pas mort. Mais là, d'un seul coup, ça ressemblait à quelque chose d'un peu miraculeux, et que je n'espérais plus. Je me souviens avoir pensé peut-être que je vais mourir sans avoir vu la révolution des femmes.
Oui, la recherche. Oui. Ce que vous dites, c'est que la recherche a continué, mais la parole ne s'est pas totalement émancipée jusqu'à ce moment.
Ah non, on a un épisode effroyable à mes yeux, qui est l'affaire DSK. Parce que à ce moment-là, de voir des réactions des femmes elles-mêmes pour disculper de ce qui est littéralement ce qui était un viol, le mot n'était jamais prononcé. Donc c'est vraiment, je me disais, mais on n'en sortira jamais d'une certaine façon de la vision, d'une vision collective partagée par les femmes aussi, de cette domination masculine, pour là employer un terme de Bourdieu. Et d'un seul coup, il y a cette prise de conscience collective et qui est venue d'un milieu qui est l'industrie du cinéma où évidemment le corps est premier, hein, c'est évidemment le corps des femmes. Parce que pas le corps des hommes, hein. Il faut bien scinder. Donc, c'était une traînée de poudre aussi. Et très rapidement, c'est sorti de ce milieu et ça a gagné, c'est sorti des États-Unis, etc. Voilà. Donc, cette prise de parole avec balance ton porc, c'était un peu violent, pas bienvenu, mais il y a eu MeToo. Voilà.
Moi aussi, ça m'est arrivé.
Moi aussi, ça m'est arrivé. Et il y avait la honte à changer de camp, effectivement. Parce que c'est une affaire, souvent, les atteintes au corps qui sont faites, ce soit de harcèlement ou des tentatives de vous embrasser et au-delà, c'est évidemment, c'est une violence qui vous fait honte. Au lieu que ce soit votre agresseur qui ait honte, c'est soi. C'est vécu comme une souillure, même, à la limite.
Et vous avez beaucoup travaillé, Annie Ernaux, à rapprocher aussi cette question à la fois de la honte sociale, de la honte sexuelle. Oui. Cette parole, elle a été portée par des femmes, vous l'évoquiez, d'un certain milieu social. Cette parole, elle a d'abord émergé dans les milieux du cinéma, chez des femmes qui ont un vrai capital social et une visibilité aussi. Oui. Est-ce qu'il suffit pour autant de dire ou écrire pour ne plus avoir honte ?
Non. Je suis très... voilà, parce que d'une certaine façon, quand on a éprouvé de la honte, il y a quelque chose qui est inscrit, qui fait que la mémoire de la honte, c'est très difficile de s'en défaire. Alors, je crois que justement, une parole collective, ça peut aider, voilà. C'est cela. L'écriture elle-même est aussi une façon de la surmonter, de la dire. Mais il faut franchir ça. Il faut franchir le moment de la parole et il faut franchir le moment de l'écriture. Je sais que Mémoire de fille, moi j'ai mis 40 ans à l'écrire. Je ne pouvais pas. Voilà.
Et justement, vous dites que toute parole est quand même soumise à son époque.
Absolument.
Après cette... presque chape de plomb, comme vous l'avez évoqué, oui. De ces années 90, oui. 2000. Est-ce que l'époque a conditionné cette parole? Est-ce qu'elle a aussi teinté ces mots et cette libération de la parole d'une manière particulière aujourd'hui, en 2017-2018?
Oui, certainement, il y a des choses... on est encore dans cet événement de la parole qui surgit. Mais peut-être avec un peu de recul, on verra qu'elle n'est peut-être pas née de rien. Voilà. Et que, par exemple, moi, il me semble que il y a, avec justement les réseaux sociaux, avec le développement aussi des sites de rencontres, de la pornographie, des sites pornographiques, etc., il y a une mise en avant énorme de la sexualité, et c'est toujours, en fait, c'est toujours le corps des femmes qui est vraiment en jeu. Toujours. Et c'est bien que je crois que cette génération des femmes plus jeunes que moi, elle n'a connu que la liberté de la reproduction et aussi une plus grande facilité professionnelle, etc. Et donc, il restait cette chose-là, ce tabou de l'excès de pouvoir des hommes sur elle. Voilà. Et que tout cela a coagulé. D'une certaine façon.
À propos d'époque, à propos de temporalité, Annie Ernaux, je vous propose d'écouter ce que disait la scénariste et réalisatrice Céline Sciamma chez nos confrères de France Inter à propos autour de votre livre Fresque les années, paru en 2008.
Oui, le livre le raconte et fait une espèce de constat des années 90 comme ça où on aurait le sentiment où finalement le capitalisme a pris en compte la question des femmes comme acheteuses et où soudainement il y a du marketing qui s'organise autour de la question de la liberté des femmes, leur liberté sexuelle, enfin à travers les magazines féminins, etc. Et ce constat, on sent qu'il est un peu mélancolique, voire amer. Parce que où sont les combats et à quoi ont-ils servi? Est-ce que finalement maintenant on n'est pas réduit à ça, à ce corps qui est à la fois mis en valeur et qui est une marchandise qu'on propose aux femmes elles-mêmes? Et je crois qu'il y a une vraie bascule aujourd'hui encore. On pourrait croire que c'est des combats qui ont fait le long feu. Et je pense qu'on vit un moment aujourd'hui d'ailleurs absolument décisif dans l'histoire du féminisme parce que justement déjà il y a une résurgence de ces combats. On voit bien que la question de l'avortement est remise en question. Même sur notre territoire. Et donc, il y a des combats qui restent d'actualité. Et puis, il y a une nouvelle forme de combat dont on pourrait penser qu'il est plus annexe, mais qui est une vraie bataille culturelle, en fait. C'est-à-dire le fait d'être intransigeant avec les mots, le fait d'être intransigeant avec les manifestations de sexisme dont on peut penser qu'elles sont accessoires. Et ça, c'est une forme de fédération, de petite révolution qui grandit, notamment dans les réseaux sociaux, avec les voix des femmes qui s'élèvent un peu partout et qui se fédèrent, et dans une conception plus systémique de la domination. Il y a de plus en plus de femmes qui sont conscientes d'être dominées et qui ne se laissent pas faire. Et donc, je crois que cette amertume des années 90, elle est aujourd'hui, avec les nouveaux outils et la mise en réseau des luttes, elle trouve un nouveau sens.
La honte est un sentiment révolutionnaire chez moi, avez-vous dit, bien avant l'affaire Weinstein, parce que c'est un sentiment qui m'oblige à penser, à me transformer. C'est aussi de là, de ce sentiment, de ce ressenti et des réseaux qui ont permis de relayer cela, que sont nées toutes ces petites révolutions auxquelles on assiste depuis quelques mois.
Oui, c'est formidable ce que dit Céline Sciamma, parce que c'était il y a 10 ans Elle voyait déjà effectivement ce rôle des réseaux sociaux, d'une sorte de prise de conscience nouvelle pour qui allait aboutir finalement. Voilà, je vois très très bien là le lien qui se fait pour. Mais il y a aussi autre chose, c'est que quelque chose qui avait lieu en même temps d'ailleurs que l'affaire Weinstein, c'y était la notion de charge mentale. C'est-à-dire que les femmes sont plus aidées maintenant par leur mari, leur compagnon, qu'elles l'étaient il y a 30 ans même, ou même moins. Mais elles ont toujours, c'est vraiment la charge mentale, c'est-à-dire l'organisation de la maison, des vaccinations, de l'école, etc. Et c'était à peu près au même moment. Donc, quelque chose effectivement est en train de se passer.
Ouais. Et la philosophe Geneviève Fraisse à ce micro qui nous disait que les femmes ont obtenu beaucoup de droits, mais est-ce qu'au fond ça change le réel? Et ça, c'est une autre question. Vous avez été, vous, militante aussi pour le droit des femmes, pour l'avortement, on va y venir. Est-ce que tous ces combats qui ont été à un moment reconnus par la loi, par le législateur, impactent pour autant, ont des conséquences sur le réel?
Alors, oui et non. On va parler tout à l'heure des lois, mais ce qui est certain, ce qui est important quand même dans ce mouvement actuel de hashtag, c'est que c'est pour la première fois, ça va obliger les hommes à s'interroger. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé jusqu'à présent. Parce que, bon, l'avortement, on pouvait dire, bon, c'était une affaire de femme, bon, d'accord. Et justement, ils ne se sentaient pas concernés. Mais là, ils sont vraiment mis, parce qu'ils sont acteurs, là. Ils sont acteurs. Le harcèlement sexuel, c'est l'excès, comme je disais, de domination. Vraiment, ils sont mis en question. Et je crois que c'est très, très important. C'est Françoise Héritier, l'anthropologue que j'admirais profondément, qui disait qu'il fallait que la virilité, c'était le trou noir, le gouffre par lequel était arrivé tout ce qui est dans le monde. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on n'interroge pas ça. Et certainement, ça va être... c'est le trouble des hommes, beaucoup... Beaucoup disent mais moi je n'ai jamais fait ça, etc. Et ça oblige quand même à se dire mais la société, comment fonctionne la société? Ben elle fonctionne effectivement par les hommes et ça continue.
Mais vous pensez que beaucoup sont dans le déni d'une certaine manière?
Pardon?
Vous pensez que beaucoup sont dans le déni d'une certaine manière?
C'est pas vraiment le déni, c'est-à-dire que ils sont tellement conditionnés par des siècles, de virilité qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place d'une femme. J'ai eu beaucoup de discussions avec des hommes et ils ne voient pas, ne peuvent pas imaginer ce que ça fait à une femme d'être tripotée sans qu'elle le veuille. Ça. Voilà. Parce que eux, c'est rarissime que ça puisse leur arriver. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Et c'est vraiment aux femmes d'exiger, d'être, vous m'avez dit, intransigeante.
Et il y a justement un essai qui vient de paraître, celui de Laetitia Strauss-Bonnard, qui pose comme constat cette crise de la virilité chez les hommes, mais qui raconte aussi que leur place est de plus en plus fragile aujourd'hui dans la société. Est-ce qu'on risque aujourd'hui une sorte d'obsolescence des hommes dans nos sociétés pour vous? Vous comprenez que d'une certaine manière aussi, une centaine de femmes, alors avec des mots maladroits, un parti pris qui était pour les femmes assez indélicat, estiment qu'il faille remettre cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la possibilité aussi pour les femmes de se laisser importuner par les hommes sur le devant de la scène?
Se laisser importuner, le droit d'être importuné, non, c'est une phrase inacceptable parce que ça suppose que un droit c'est aussi le droit de ne pas être importuné. C'est ça la chose. Non, cette tribune était à la limite, ridicule. quelque part. Et c'était un manque également de solidarité, de compréhension des autres femmes qui prennent le métro et qui ne veulent pas être importunées. Non, la cette fragilité, c'est pas la première fois qu'on en parle de la fragilité des hommes. Mais ce ne sont pas les femmes qui rendent les hommes fragiles. Ce sont d'autres facteurs. C'est d'autres facteurs de la société. Ça peut être des conditions de travail. Ça peut être le chômage. Toutes sortes de choses qui sont, c'est l'état social aussi, c'est là où on retrouve le fait que ce n'est pas indépendant de la société dans laquelle on vit, de la politique même.
Oui, c'est pas forcément une guerre des roses ou une guerre des sexes qui est à l'origine de l'affaiblissement de l'un ou l'autre. Non. Des deux genres. Vous avez évoqué l'importance donc et la manière aussi de prendre la parole. Vous avez choisi l'écriture, elle, ces femmes cette année, les réseaux sociaux. Chacun doit trouver son chemin. C'est aussi ce que pense et dit Christine Angot, comme vous, qui a choisi, elle, l'écriture. Un exercice difficile et surtout sans assurance de résultat.
On vit une période de séparation des hommes et des femmes dans tous les domaines. Et je ne pense pas qu'il faille l'accentuer en disant que les hommes sont des porcs et que les femmes sont des victimes. Je pense que ces nouvelles assignations ne sont pas justes. Je pense que les hommes sont des humains et que les femmes aussi sont des humains. Et en revanche, ces humains, hommes et femmes, vivent tous sous un régime de pouvoir, et ceux qui en jouissent, qu'ils soient hommes ou femmes, ont une sérieuse tendance à en abuser. Donc là, on est dans l'abus de pouvoir. Et c'est ça qui se passe. Et pourquoi la parole contre l'abus de pouvoir est difficile? Eh bien parce que ce qui est difficile, ce n'est pas de parler, contrairement à ce qu'on croit. C'est difficile de parler, mais parce que ce qui est difficile, c'est de se dégager d'un pouvoir. C'est ça qui est difficile. Donc pour parler, mais pour parler vraiment, il faut arriver à se dégager d'un pouvoir. Là, le pouvoir a changé de camp.
Oui, vous dites la honte a changé le camp. Christine Angot dit le pouvoir a changé de camp. Est-ce que vous avez eu le sentiment?
Je ne pense pas que le pouvoir ait vraiment encore changé de camp. Hein. Voilà. Et la preuve, c'est que, bien sûr, les femmes qui ont justement du pouvoir ont pu parler. Bon. Mais il y en a beaucoup qui continuent de se taire. Je ne pense pas que justement c'est le problème tout de même que le pouvoir ne dépend pas seulement du sexe, c'est vrai.
L'écrivaine Annie Arnaud est notre invitée jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Deux figures pour éclairer votre féminisme, Annie Arnaud, Simone de Beauvoir et Simone Veil. Simone Veil, décédée l'an passé, dimanche, elle fera son entrée avec son époux au Panthéon. Simone Veil, l'immortelle, quelle image gardez-vous d'elle?
Oh, c'est évidemment l'image de Simone Veil montant à la tribune. Et ce discours qu'on écoute encore maintenant, qui est absolument d'une force, qui force le respect, qui est comme une... D'un seul coup, c'était quelque chose qui éclatait dans cette assemblée d'hommes. Et vous savez, moi je me souviens, j'étais en Haute-Savoie, je regarde la télévision et j'avais les larmes aux yeux parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi que défend Simone Veil avec une grande dignité, elle est l'aboutissement des luttes des femmes. C'est important de le rappeler. Pendant plusieurs années, 4 ou 5 ans, il y a eu le mouvement Choisir avec Gisèle Halimi. Il y a eu le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Il y a eu le manifeste des 343 salopes. Il y a vraiment une lutte et elle est prise à bras-le-corps. Elle est donc, vraiment, elle va devenir, c'est la loi. Et la loi change tout, bien sûr, parce que au fond c'est ça qu'on luttait pour avoir une loi de la liberté de l'avortement. Et elle la porte avec, je veux dire, d'une façon qui est d'une évidence, vous savez, de dire bah c'est elle. Voilà, c'est elle. Donc c'est cette image-là, bien sûr, qui me reste. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'on ne savait pas qui elle était finalement. Elle est apparue hein, comme ça, et on ne savait pas son histoire.
Justement, c'est la femme aujourd'hui, l'intime, que relate un documentaire, Simone Veil, album de famille, qui sera diffusé ce soir sur France 3. Et là, ce sont ses enfants, ses fils, qui témoignent aussi de la femme qu'elle était.
Présentez. Ah.
Le 5 juillet 2017, la République rendait un dernier hommage à Simone Veil, une des grandes figures de son histoire, disparue dans sa 90e année. Le pays tout entier honorait ce jour-là une jeune Française d'origine juive, rescapée des camps de la mort, parvenue à s'imposer tout au long de sa vie, là où aucune femme ne s'était jamais tenue avant elle. Une icône dont l'image s'est peu à peu forgée au fil des nombreux combats qu'elle a menés. Pour les droits des femmes, afin qu'elles puissent disposer librement de leur corps. Pour l'idéal européen de manière à éloigner le spectre de la guerre. Pour la mémoire de la Shoah, enfin, au nom de toutes les victimes dont le souvenir l'aura accompagnée jusqu'à ses derniers instants. À Simone Veil, qui va faire son entrée au Panthéon accompagnée de son mari Antoine, la patrie reconnaissante.
L'album de famille de Simone Veil, l'ancienne déportée, militante pour le droit à l'avortement, femme politique, centriste, portée par l'idéal européen. C'est aussi une femme qui a traversé les années, Annie Ernaux, qui a marqué le siècle autant que ce siècle l'a marqué. C'est pour vous réellement une incarnation de ce XXe siècle, Simone Veil ?
C'est une figure évidemment essentielle, tragique, parce que justement, elle a traversé l'horreur du siècle et c'est ce silence qui a été fait longtemps justement sur ce qu'elle avait traversé. On se dit que vraiment quand même cet oubli d'histoire, c'est parce que si on ne savait pas, c'est parce que à cette époque encore dans les années 70, on ne parlait pas beaucoup de la Shoah et c'est dans les années 80 seulement qu'on a pris vraiment conscience, je crois.
Que la mémoire, là, oui. D'une certaine manière, s'est libérée. Je déclare avoir avorté. Ces mots, ils ont été écrits par Simone de Beauvoir, l'autre femme que vous admirez beaucoup, en ouverture du manifeste des 343 salopes en 71, qui ouvrira la voie à l'adoption de la loi Veil et à la légalisation de l'IVLG. C'est ce manifeste, vous ne l'avez pas signé, vous avez raconté que c'était pas le moment à l'époque, vous étiez aussi...
Non, je n'étais pas écrivaine.
Vous étiez mariée.
Oui, je me mariais avec des enfants et il est vrai que prévalait toujours le silence, bien sûr. C'était une honte d'avoir avorté.
Vous n'étiez pas écrivaine, ça veut dire que vous n'étiez pas une personnalité publique à poser sa signature ou être sollicitée pour un manifeste comme celui-ci.
Non. Je souligne quand même qu'ensuite, il y a eu des listes en quelque sorte de femmes qui déclaraient avoir avorté. Moi, je ne l'ai pas fait. C'était très difficile encore. Mais mon premier livre qui sera publié, la première page, c'est une fille qui attend que se déclenche la fausse couche dans un avortement clandestin. Et c'est évidemment ma propre expérience.
Un événement intime que vous avez aussi raconté dans l'événement paru en 2000. Cet avortement clandestin que vous avez subi en 64. On a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, on puisse... vivre des moments comme ça dans l'illégalité, vous en racontez aussi toute la violence que ça peut représenter pour le corps d'une femme.
C'est pas seulement le corps, c'est évidemment c'est toute la personne qui était stigmatisée, qui était réduite à vraiment, c'était un crime pour les médecins. Vraiment. Et en même temps, il y avait cette hypocrisie que les femmes qui avaient de l'argent ou des connaissances, connaissaient des médecins, pouvaient se faire avorter dans toute sécurité. Donc, c'était une injustice sociale également.
Selon Amnesty, aujourd'hui, 60% des femmes n'ont pas accès librement à l'avortement dans le monde entier. L'Irlande, pays à forte tradition catholique, l'a autorisé cette année, ce qui était un pas énorme. Demain, peut-être l'Argentine. En France, on a réentendu au moment de la présidentielle des débats qu'on pensait ne plus jamais entendre ici, plus de 40 ans après la loi Veil, avec un François Fillon qui se disait notamment philosophiquement contre, mais sans a priori revenir sur ce qu'était ce droit sans rien y changer. Et d'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui voulait l'inscrire, ce droit à l'avortement, dans la Constitution.
Oui. Et je pense que ce serait bien, effectivement. Ce qui n'est pas dans la... Bon, la loi existe, mais elle n'est pas dans la Constitution. Et même, elle devrait être dans la Constitution européenne. C'est une demande de femmes en Europe.
Écoutons comment Simone Veil en parlait en 1974.
Je pense que la situation actuellement est une situation injuste et mauvaise. Elle est injuste pour les femmes parce qu'en définitive, c'est surtout contre les plus démunis, les plus défavorisés que la loi pénale actuellement est rigoureuse. Pour les autres, il est très facile d'aller en Hollande, il est très facile d'aller en Angleterre et même quelquefois aussi facile de trouver un médecin qui le fasse en France. Il y en a, nous le savons. Mais en revanche, pour les femmes qui sont le plus perdues, les moins informées, qui n'ont pas d'argent, qui sont perdues soit dans leur campagne, soit même dans des conditions de vie très difficiles dans les villes, elles ne savent pas comment faire quand elles attendent un enfant, qu'elles ne peuvent vraiment pas assumer. Alors, c'est pour ça que nous trouvons que la situation est mauvaise et que nous estimons souhaitable de la modifier. Parce qu'il y a trop de femmes actuellement qui interrompent une grossesse dans des conditions pénibles.
Voilà, elle disait comme vous, Simone Veil, à l'époque, sur les conditions dans lesquelles les femmes pouvaient ou devaient se faire avorter.
Les femmes, est-ce qu'il faut dire, des femmes en mouraient. Personnellement, j'en ai connu deux. Une femme dans la rue de la ville, une mère de deux enfants et une étudiante, voilà.
Vous avez dit que c'est la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui vous a permis de mettre des mots sur ce que vous aviez vécu, sur ce que vous étiez aussi. Simone de Beauvoir qui fait son entrée dans un autre panthéon, la Pléiade, 36 ans après Jean-Paul Sartre. C'est une reconnaissance tardive, mais méritée et hautement symbolique, parce qu'elle était aussi une femme de lettres, tout autant qu'une femme de combat pour vous, Annie Ernaux.
C'est peut-être plus d'abord la femme de combat que j'ai vraiment appréciée, qui a compté pour moi. Mais ensuite, c'est aussi la mémorialiste, la femme qui écrit sur sa vie. Ce sont les deux, si vous voulez, qui se mêlent. Mais j'ai davantage quand même de, si vous voulez, c'est profond pour moi, parce que le deuxième sexe est intervenu dans ma vie à 18 ans, quand j'étais perdue, littéralement, et que j'avais, justement, je vivais sans comprendre ce qui m'était arrivé. Vous savez, c'est un peu une figure tutélaire, Simone de Beauvoir. On se dit que si il n'y avait pas eu Simone de Beauvoir, au fond, ma vie ne serait peut-être pas ce qu'elle est.
Une figure amie, et pourtant elle n'a pas du tout eu la même trajectoire que vous.
Non. C'est peut-être là la différence profonde, c'est qu'il y a tout un pan de ça, d'une expérience qu'elle n'a pas connue, qui est l'expérience d'appartenir à un monde dominé. Et d'être hors de la culture légitime et qu'il faut la gagner, en quelque sorte, que tout est une lutte, si vous voulez. Donc il y a à la fois la lutte d'une femme, d'être femme, et la lutte sociale. Les deux s'additionnent et ça donne quelque chose, quelquefois, de beaucoup plus difficile. Elle savait qu'elle était privilégiée, donc, mais c'est une chose de savoir.
Et c'est une chose de l'être. C'est une différence que vous ressentiez dans son écriture, le fait que ce ne soit pas pour elle une force vitale, peut-être de la même manière que ça l'a été pour vous, le fait d'écrire un sujet ou un objet de lutte aussi.
Oui, et c'est-à-dire, je vais formuler de la façon avec laquelle j'ai ressenti les choses, c'est qu'elle n'a pas eu le sentiment d'utiliser une autre langue en écrivant. Vous voyez, elle a toujours été de plein pied avec la culture littéraire qu'elle a acquise, enfin, dans sa famille. Et alors que, pour moi, j'ai eu l'impression, c'était plutôt d'utiliser deux langues, c'est-à-dire la langue populaire, je sortais du patois aussi, et la langue légitime. Et c'est ce sentiment d'être entre deux mondes, donc d'être entre deux cultures, a façonné ma vision de la littérature et mais aussi ma manière d'écrire. C'est-à-dire que pour moi, les mots, les structures ne sont pas innocents. Voilà. Donc, j'étais très étonnée de sa manière d'écrire, disait-elle. Elle écrivait très, très vite. Par exemple, un manuscrit, elle écrivait, voilà. Et puis, ensuite, elle passait du temps à refaire, à arranger, etc. Et je me dis, oui, mais pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que le langage est piégé pour moi. C'est comme si j'utilisais une langue pour laquelle je n'ai pas été programmée, d'une certaine manière. Oui. Donc, en réalité, ma conception de la littérature est très, très différente. Voilà. C'est pour cela que je dis que c'est plutôt la femme de combat. Mais pas en revanche. Ce désir qu'elle a eu dans son autobiographie, dans ses mémoires, dans ce qui sort dans la Pléiade, c'est de considérer avec honnêteté, et je pense souci de vérité, sa vie, voilà. Donc, une disposition et de se mettre à distance. Voilà. C'est ce qui est toujours le plus intéressant dans son travail.
Notre façon d'être femme vient pour beaucoup de notre éducation. On se construit selon le modèle de nos mères ou au contraire en opposition. Cette jeune fille de 18 ans, cette fille de 1958 que vous racontez dans Mémoire de fille, est-ce que vous vous êtes réconciliée aujourd'hui complètement avec elle? Vous la viviez avant comme une étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, votre ombre, cette ombre, l'ombre de cette jeune fille a retrouvé votre silhouette à vous?
Oui. Mais c'était très très difficile c'est l'écriture qui a permis effectivement de dire elle c'est moi. Il fallait assumer la fille qui consent un rapport sexuel et qui va se trouver embringuée littéralement dans une sorte de passion amoureuse pour celui qui l'a au fond agressé. Alors, c'est cette honte-là, à la fois la honte d'avoir été objet, la honte ensuite d'avoir aussi m'être livrée à du libertinage, hein, mais à une époque où c'était condamné. Donc, tout cela formait un magma qui me faisait refouler le plus loin possible la fille que j'avais été. Et c'est bien sûr, il y avait eu Simone de Beauvoir, la lecture de Simone de Beauvoir, mais le problème, c'est est-ce que c'est praticable? C'était praticable? Est-ce que dans la France des années 50, est-ce que c'était praticable de vivre sa liberté, d'être libre et de ne pas considérer ce qu'on a vécu comme une honte? Non. Ça ne l'était pas. Et il faudra effectivement, 10 ans plus tard, que 68 passe par là et qu'il y ait une libération à ce moment-là tout de même de la sexualité, de la parole, même si cette libération a été plus favorable aux hommes qu'aux femmes.
Et 60 ans plus tard, est-ce que c'est permis?
Que les femmes vivent davantage, oui. Complètement, non.
Si cette jeune fille de 1958, vous ressurgissait aujourd'hui, en 2018, vous ne la jugeriez pas, vous lui diriez quoi?
Non, je pense qu'il y a la fille de 58, elle est ressuscitée dans plein de filles actuellement. Et que, non, je pense qu'elle serait, au contraire, l'image pour moi de ce que doit être une fille, c'est-à-dire que son corps est à elle, qu'elle n'a pas à dépendre des jugements des autres, des garçons, des autres filles. Mais je pense que c'est quand même encore très difficile. C'est que cela dépend aussi beaucoup du milieu social.
Annie Ernaux, merci beaucoup d'être passée autour de cette grande table. Merci mille fois.